autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour nous demander comment les chercheurs africains ont relevé le défi d'Ebola et comment leurs travaux et leurs découvertes menées sur le continent se révèlent essentielles pour mieux comprendre et lutter contre les maladies émergentes. C'est au sein du CERFIG, le Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de Guinée, qu'il a contribué à fonder, que notre invité, le microbiologiste Alpha Cabinet Keïta, mène désormais ses recherches en lien avec l'unité Trans-VIHMI de l'IRD à l'université de Montpellier. Alpha Cabinet Keïta travaille sur les réservoirs de virus responsables des zoonoses, d'Ebola au coronavirus en passant par Marbourg, la dengue et tous les coronavirus. Comment ce brillant chercheur a-t-il décidé de revenir dans son pays, la Guinée, et de mobiliser toutes les forces vives pour lutter contre ce virus mortel? Comment ses découvertes ont-elles changé la donne, l'approche et surtout le suivi de l'épidémie d'Ebola? Comment son laboratoire de recherche et de formation en Guinée est-il devenu l'un des référents du programme de surveillance de l'évolution des variants du SARS-CoV-2 en Afrique? Et pourquoi ce fervent promoteur et acteur de One Health, une santé, une seule santé en commun, a de quoi nous inspirer, nous faire réfléchir et nous interroger? Autour de la question « Comment les chercheurs africains ont relevé le défi d'Ebola ?» Bienvenue pour faire connaissance avec un chercheur engagé qui fut ambassadeur puis lauréat du Next Einstein Forum, qui distingue les meilleurs jeunes chercheurs du continent, comme nous le rappelle le professeur Mama Fupuanini de l'université de Yaoundé au Cameroun, qui dirige ce réseau AIMS d'instituts panafricains d'excellence en sciences mathématiques.
C'est beaucoup de courage parce que finalement, personne d'autre ne viendra développer l'Afrique en dehors des Africains. Vraiment, je l'encourage et c'est un exemple à suivre, justement. C'est un esprit très important à EMS, l'idée d'être afro-optimiste et de se sentir responsable du développement de l'Afrique que nous voulons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants.
Bonjour Alpha Cabinet Keïta.
Bonjour Caroline.
Merci beaucoup d'avoir profité de votre passage en France. Vous êtes à l'Université de Montpellier pour faire halte en direct dans notre studio sur RFI. Nous sommes très heureux de recevoir le brillant chercheur, médecin et microbiologiste que vous êtes. Aujourd'hui, donc directeur adjoint du CERFIG, le Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de Guinée, que vous avez co-fondé, en partenariat bien sûr avec l'IRD, vous êtes chercheur IRD à l'unité Trans-VIH-MI de l'Université de Montpellier, au sein de laquelle vous menez vos recherches, alors de Montpellier à Conakry à Montpellier, vous alternez entre les deux, majoritairement à Conakry tout de même, où vous êtes également chef de l'unité de biologie moléculaire à l'Institut de Santé Publique de Guinée et coordinateur de la recherche au Centre d'Excellence Africain pour la prise en charge des maladies transmissibles. Il y a du boulot. Vous avez fait ce choix, Alpha Cabinet Keïta, de revenir sur le continent en Guinée pour mener vos recherches au moment même de la terrible épidémie d'Ebola qui a sévi en 2013 dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'était déjà un choix courageux qui a plus que porté ses fruits. Vous l'aviez fait dans quel état d'esprit à l'époque ?
Déjà, merci Caroline pour cette invitation. Merci pour tous les...
C'est même pas des compliments, mais allez-y.
Il faut se dire que lorsqu'il y a eu l'épidémie d'Ebola de 2013 à 2016 en Guinée, moi j'étais dans une unité de recherche à l'époque qui relevait de l'IRD, j'étais postdoc au Sénégal, et à ce moment précis, absolument rien ne me dirigeait sur des travaux sur Ebola. Mais vu l'ampleur que prenait l'épidémie en Guinée, les diverses discussions que j'avais avec les gens de gauche à droite sur mes compétences, sur ce que je peux apporter à mon pays par rapport à tout ce qui se passait en ce moment, et les informations aussi que j'avais sur les projets qui pouvaient se développer dans mon pays en ce moment-là, j'ai décidé... de prendre contact avec les gens qui pouvaient me mettre sur ce chemin-là, notamment Éric Delaporte et Martine Peters. Éric Delaporte qui est mon directeur d'unité
à l'IRD.
Martine Peters qui travaille sur Ebola. Donc en ce moment-là, j'ai décidé de prendre contact avec eux pour voir comment est-ce que je pouvais intégrer leur équipe et pouvoir être utile en même temps à la Guinée. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti à ce moment-là en Guinée en tant que volontaire avec les Prusses, diriger le laboratoire de diagnostic à Macenta pendant quelques semaines. Ça m'a permis de m'imprégner, d'apprendre des choses que je ne savais pas. Et à partir de là, je me suis mis, entre guillemets, au service de Ebola.
Au service d'Ebola, véritablement. Vous avez été un des... Alors, vous avez fondé, cofondé, le Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de Guinée pour étudier sur place, avoir un suivi, surveiller des nouvelles émergences. Depuis, il y a eu énormément de publications scientifiques parce que vous avez été un des premiers aussi à suivre les survivants d'Ebola.
Effectivement. Et ben, en parlant des survivants d'Ebola est une brillante idée de... Éric Delaporte de l'unité Transvimi, qui nous a associés au départ à ce projet. Mais ce projet, nous avons fait corps avec le projet. Quand je dis nous, c'est Abdoulaye Touré, Mamadou Saliousso. On a commencé toute cette activité auprès d'Éric Delaporte, de Jean-François Étard, de Philippe Ancelati, de Bernard Taverne, Alice Desclos, les anthropologues. Donc c'est avec Aïdjo, Martine, c'est toute une équipe constituée de virologues, d'anthropologues, d'épidémiologues, de médecins qui ont décidé d'aborder ces problèmes-là. Et qu'est-ce qui se passe? Mars 2015, on inclut les premiers patients parce que il faut se dire qu'il y a eu quand même beaucoup de décès, mais à côté de ces décès, il y a eu beaucoup de survivants. Mais qui est-ce qui se posait la question sur le devenir de ces survivants-là en ce moment? Personne.
Et il fallait être sur place pour se la poser.
Il fallait être sur place pour se la poser, pour essayer de comprendre comment est-ce que ces survivants évoluent, hein, quel peut être leur devenir au-delà de l'aspect clinique, leur devenir virologique, leur devenir immunologique, leur devenir psychosocial, parce que au-delà de tout cet aspect médical, à côté, il y a un aspect important psychologique qui est lié à la stigmatisation que pouvaient subir ces survivants à l'époque. On a vu des survivants qui ont perdu leur travail, qui ont été rejetés par leur famille. Il y a plein d'autres déterminant justement de cette maladie qui ne soit pas liée au seul symptôme de la maladie qui effraie.
C'est ça, hein, vous travaillez aussi donc, avec d'autres chercheurs sur cette question de la stigmatisation des survivants d'Ebola et en suivant cette cohorte-là, donc de toutes les manières possibles, en interdisciplinarité, vous avez fait des découvertes essentielles qui ont notamment permis, lors de la résurgence d'Ebola, de comprendre comment et pourquoi ça avait fonctionné. Il y a une parution dans la prestigieuse revue scientifique Nature que vous avez signée, Alpha Cabinet Keta, qui a démontré que cette fois-ci, ce n'était pas une zoonose qui avait réémergé, c'était qu'on était réservoir finalement nous-mêmes de ce virus Ebola.
Effectivement, enfin, comme je le dis souvent, je dis avec nous, l'histoire l'histoire naturelle de la maladie à virus Ebola, c'est un cheminement. Il faut suivre nos travaux depuis le départ pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'on a suivi les survivants. Dans le suivi des survivants, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une composante clinique qui nous a permis de définir ce qu'on appelle un syndrome post-Ebola. Après, il y a un paquet immunovirologique qui nous a permis de montrer qu'au-delà de cet aspect clinique, après une guérison clinique, le virus pouvait persister dans les fluides, notamment le sperme, le lait maternel chez les femmes, essentiellement. Et on a vu dans d'autres endroits du monde que les gens ont fait des rechutes Ebola, par exemple une encéphalite post-Ebola, des gens ont eu Ebola dans les yeux et tout ça. Donc, ce qui montre que le virus, il persiste dans des zones de privilège immunitaire, c'est-à-dire des zones où les anticorps n'arrivent pas pour pouvoir détruire le virus. Sachant cela, on se posait la question, mais au final, quelle pouvait être l'implication en santé publique de ces persistances-là? On a fait un papier dessus, et petit à petit, en évoluant, on s'est rendu compte qu'en réalité, avec les travaux que nous avons menés sur les contacts des patients Ebola à la phase aiguë, on s'est rendu compte qu'en réalité, il y a des gens qui pouvaient porter le virus sans développer des symptômes. Ils font ce qu'on appelle des formes asymptomatiques. Des fois, des formes avec de très faibles symptômes qu'on appelle poussi-symptomatiques. Donc, tout ça mis bout à bout nous a permis d'une certaine façon de préparer nos équipes à continuer à travailler sur le virus, même après l'épidémie. Avec, vous parliez du One Health tout à l'heure, on a un projet global One Health.
Une seule santé humaine, animale et sur toute la planète.
Hein. Donc ça nous permettait en même temps de nous intéresser au réservoir du virus, de l'étudier et d'avoir des données au-delà de ce qui a déjà été apporté concernant le portage du virus par les chauves-souris et par d'autres types d'animaux en étudiant simplement la viande de brousse. Donc on avait accumulé toutes ces données-là avant l'épidémie de février 2021. Donc à partir de l'épidémie de février 2021, ces données accumulées, des équipes mises en place qui ont été formées à faire face à l'épidémie, un consortium de chercheurs établi de plusieurs institutions, chacun avec sa compétence, ça nous a permis d'intervenir immédiatement dans cette épidémie-là, d'en faire le diagnostic au Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, de produire un génome. Et d'autres centres aussi, comme le laboratoire des fièvres hémorragiques de Guinée, l'Institut Pasteur de Dakar, ont aussi eu le même cheminement face à cette épidémie. Ils ont produit des données et ces données ont été comparées. Il s'est trouvé qu'en travaillant indépendamment, on avait trouvé les mêmes choses concernant cette épidémie. Ce qui montrait clairement que l'évolution du virus que nous avons trouvé permettait d'écarter une transmission de l'animal à l'homme. Et de se dire que ça, c'était un virus qui provenait d'une source persistante, certainement humaine. Et sachant ce que nous savons déjà sur la persistance du virus dans les fluides des survivants, c'était facile de tirer une conclusion. Mais on s'est gardé de faire des conclusions hâtives sur le fait que le virus l'épidémie pouvait venir d'un survivant. Et aussi, ne pas oublier que les porteurs asymptomatiques du virus peuvent aussi être réservoirs. Donc l'histoire naturelle se complique. On le comprend mieux, mais en même temps, ça se complique.
Ça se complique. En même temps, ça a permis cette compréhension, cette connaissance, cette étude. Elle a permis d'éviter alors, des annonces trop rapides, on est bien d'accord. Hein. C'est vraiment très très sérieux. Mais aussi de pouvoir limiter tout de suite la flambée d'Ebola. On voit à quel point ça a été essentiel et fondamental pour arrêter, pour stopper l'épidémie. Autour de la question comment justement le chercheurs que vous êtes et vos collègues Alpha Cabinet de Keita ont-ils relevé le défi d'Ebola? Donc c'est à la fois en étudiant avec des techniques moléculaires les plus sophistiquées, mais aussi en vous regroupant, en interdisciplinarité, que ça a fonctionné. Je propose en tout cas à nos auditeurs de découvrir comment vous travaillez au quotidien, donc sur toutes les zoonoses, parce qu'on va y venir, il n'y a pas qu'Ebola, sur ces maladies émergentes ou réémergentes à virus, au sein du CERFIG, visite guidée donc de votre laboratoire à Conakry, où vous travaillez aussi bien sur les prélèvements d'Ebola que sur ceux de la Covid-19. Reportage à Conakry de notre reporter Charlie Dupio, réalisé le 21 avril dernier.
Bonjour Lucie.
Donc ça c'est une zone non contaminée. Les échantillons sont stockés dans la salle des congélateurs.
Ah, qui est juste sur notre gauche.
Qui est là. Et donc maintenant pour les prélèvements Ebola, lorsque par exemple il y a eu la résurgence actuelle en Guinée forestière.
En
février 2021 là. Et donc nous avons reçu les prélèvements ici pour confirmer un premier diagnostic qui avait été fait sur place à Djékédou.
Et là par exemple on a un monsieur qui vient de passer avec une valise.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise?
C'est une glacière. Ça c'est des prélèvements de personnes suspectes d'être infectées par le coronavirus, le SARS-CoV-2. C'est des écouvillons qui viennent de transférer.
Mais donc là, il y a écrit laboratoire de virologie, donc on ne peut pas trop rentrer parce qu'on n'a pas forcément la blouse adéquate, il y a des gens qui travaillent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, il y a une pièce où on voit écrit extraction.
Vous avez globalement à l'intérieur du laboratoire trois grands compartiments. Une zone pré-pandémie, PCR, donc pré-amplification, c'est-à-dire une zone, la zone avant-amplification. Donc, lorsqu'on récupère les prélèvements et que les prélèvements arrivent à l'intérieur de ce compartiment, on a un poste de sécurité microbiologique de type 2, on a un poste de sécurité microbiologique de type 3, qui est une boîte à gants. Et ces postes de sécurité microbiologique servent à inactiver les prélèvements, à les rendre propices à la manipulation avec le moins de danger possible. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, les prélèvements inactivés, maintenant on peut passer à l'étape suivante, qui est l'étape d'extraction de l'ARN. Quand il s'agit des bactéries, ça sera l'ADN ou des parasites. Mais dans le cas spécifique du virus Ebola ou du SARS-CoV-2, ça sera de l'ARN qu'on va extraire. Et après l'extraction de l'ARN, les réactions qui sont préparées sont faites dans le but de transformer cet ARN en ADN complémentaire. Et c'est cet ADN-là qui va être multiplié en plusieurs copies pour espérer pouvoir amplifier l'ARN du virus dans cet échantillon-là.
Reportage de Charlie Dupuis à Conakry dans votre laboratoire au CERFIG, le centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée que vous avez cofondé et dont vous êtes le directeur adjoint, Alpha Kabinet Keïta. On se rend compte que votre expertise autour d'Ebola, elle est rudement utile aujourd'hui autour du SARS-CoV-2.
Effectivement, enfin, nous on le disait avec mes collègues bien avant l'épidémie du SARS-CoV-2, on disait que c'était pas en période de guerre qu'il fallait préparer les soldats. L'épidémie d'Ebola, on le disait, ça a été une opportunité pour mettre en place des structures qui aillent au-delà des actions contre la phase aiguë d'une épidémie, qui aillent au-delà, qui permettent de mettre en place des équipes qui soient tout le temps prêtes à affronter les épidémies. Donc nous, au Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, c'est ce que nous avons compris. On s'est dit, après cette épidémie, il faudrait qu'on fasse en sorte que les collaborateurs et nous-mêmes, que nous soyons au niveau pour qu'on évite ce qu'on appelle les angles morts. C'est-à-dire que les équipes soient prêtes à faire face aux épidémies à n'importe quel moment. Dès qu'il y a une alerte, que nous soyons en mesure de faire le diagnostic tout de suite. Et cela passe par la formation, ça passe par le maintien d'activité au sein des centres de recherche et au sein des centres qui sont capables de faire le diagnostic. Et donc nous, ça a été notre approche. Et lorsqu'il y a eu la pandémie à coronavirus, on était prêts.
Vous étiez prêts, oui. Vous êtes prêts, vous oui. Avez les moyens, vous avez un laboratoire excellent, vous formez des jeunes équipes, vous travaillez aujourd'hui sur les variants, oui. L'évolution des variants du Covid. Et malgré tout cela, dans votre pays, on n'est pas plus protégé que ça en Guinée contre le coronavirus. Je crois que vous avez des choses à dire là-dessus, j'aimerais bien vous entendre aussi sur l'évolution et sur les variants, mais justement, puisque vous travaillez là-dessus, qu'est-ce que ça dit, cette étude de l'évolution des variants du Covid, et pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas plus les chercheurs africains, et pourquoi est-ce qu'on ne transfère pas plus sur le continent ce que vous savez, ce que vous avez appris, et ce sur quoi vous travaillez.
Bon, déjà, parlant du coronavirus, on a tous été surpris par ce virus qui commence à inquiéter ce que nous, on disait au début de l'épidémie. Habituellement, quand on a des problèmes, c'est les Occidentaux qui viennent aider. Aujourd'hui, ils ont les mêmes problèmes que nous, mais qui viendra nous aider, nous ? Donc, il faut en quelque sorte prendre son destin en main pour essayer de faire face au problème le plus que possible. Mais ce qui se passe, c'est que à un certain niveau de prise de ce destin en main, on se rend compte tout de suite qu'on a des limites. Et ce qui fait que, je le dis souvent, la recherche collaborative est une recherche qui permet justement de développer ce qu'on a développé pour Ebola et de l'étendre sur des pathogènes comme le SARS-CoV-2. Mais ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, c'est que pour la recherche des variants, il y a eu de véritables renforcements de capacités qui permettent, par exemple, à des centres comme le CERFIG
en Guinée,
de faire le suivi génomique de ce virus en Guinée. Les génomes sont séquencés par nos jeunes collègues au Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée. Il faut le dire, ça, c'est quelque chose qui était inespéré. Mmh. Et au-delà de ce séquençage qui est réalisé, Il y a du criblage aussi qui est réalisé, qui permet d'avoir des profils de variants, de faire du suivi presque en temps réel de l'évolution de ces variants-là.
Donc il y a une recherche de pointe en Guinée-Conakry qui est utile à toute la planète, on le rappelle. Sauf qu'en Guinée-Conakry, il y a quoi comme vaccin contre le
Sauf qu'en Guinée-Conakry, en parlant des vaccins, il y a ce qui... Aujourd'hui, tous les vaccins existent. Mais au tout début, on avait le Sinopharm, le Sinovac, le Sputnik. C'est des vaccins qui, quelque part, ne sont pas reconnus par l'Union européenne. Et des gens comme moi, par exemple, en me déplaçant... Je me suis déplacé en ayant mes doses de Sputnik et en ayant fait la maladie à coronavirus. Arrivé en France, j'étais obligé de refaire un vaccin Pfizer. À mon avis, ça, sincèrement, c'est un mauvais message qu'on envoie aux populations.
C'est ça, puisqu'en fait, aux populations et même aux chercheurs que vous êtes, on dit « Oh, allez, on va vous donner quoi, un vaccin qu'on ne reconnaît pas, mais enfin, ça va peut-être marcher pour vous, mais on ne vous accueille pas avec ce vaccin-là ». Alors que vous menez vous-même les recherches qui nous concernent tous et les recherches de pointe sur les variants qui se développent, on le sait précisément, dans une population non vaccinée.
Effectivement. Enfin, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on parle d'hésitation vaccinale, on parle d'infodémie, de lutter contre tout ceci. Mais je pense que c'est un mauvais message qu'on envoie aux gens lorsqu'on leur dit « Mais le vaccin que vous avez dans vos pays sont des vaccins qui ne sont pas reconnus ailleurs, mais vous pouvez les utiliser quand même. Quelque part, ça prédispose justement à la diffusion de ces mauvaises informations au sein des populations qui diraient qu'il y a une partie du monde qui a droit à un bon vaccin et l'autre partie a droit à un mauvais vaccin.
Ce qui doit d'autant plus, excusez-moi, vous n'avez pas l'air très énervé, Alpha Cabinet Kéta, mais moi ça m'énerverait beaucoup, d'autant quand on est un chercheur d'exception comme vous, que vous menez une recherche fondamentale, utile à tous, et qu'au fond vous n'arrivez pas tant que ça à le faire comprendre ou à le faire passer dans votre pays.
La raison de mon calme est toute simple, parce que moi, je pense que pendant longtemps, on a accusé tout le monde. Enfin, on a pris nos problèmes et on les a mis dans les bras des autres pour qu'ils trouvent des solutions. À un moment donné, je pense qu'il est temps que les gens prennent leur destin en main. Et toutes ces pandémies sont en train de nous montrer cela, de dire aux Africains, aux pays qui sont considérés comme étant des pays à faible revenu, que les collaborations, les partenariats qu'ils doivent mettre en place pour développer la recherche ou d'ailleurs d'autres domaines doivent être des partenariats qui leur permettent de pérenniser des choses, de mettre en place des choses qui aillent au-delà de l'action aiguë, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Au-delà de l'urgence.
Au-delà de l'urgence. Et ce que nous avons fait avec l'Université de Montpellier, avec l'IRD, avec la nouvelle agence ANRSMIE, avec l'INSERM, avec tous nos partenaires pour la mise en place du Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, je le dis et je le répète, puisque j'en ai l'occasion, pour moi, c'est un exemple à suivre. C'est quelque chose qui a été développé dans la phase aiguë d'une épidémie, mais dans le but d'aller au-delà de cette phase aiguë, d'aller au-delà de l'urgence, de doter le pays d'une structure qui permette non seulement de faire face aux futures épidémies, mais de doter le pays de ressources humaines capables de pérenniser ses actions. Et je pense que pour le futur, ce sont des actions comme ça qu'il faut mettre en place. Parce que sans cela, on continuera à chaque fois qu'il y a des problèmes, à faire face à celui qui nous a aidés la première fois. Et je reviendrai sur ce petit proverbe qui dit qu'au lieu de donner du poisson à quelqu'un tous les jours, il faudrait lui apprendre à pêcher.
Et c'est ce que vous faites tous les jours au quotidien en Guinée-Conakry. Alpha Cabinet Keita, autour de la question comment les chercheurs et les chercheuses africains ont relevé le défi d'Ebola en pleine urgence et continuent de relever nos défis communs face aux pandémies, face au Covid-19 en particulier. Allez, on reste dans la collaboration, les liens, les réseaux. On écoute un autre réseau qui a donné de la voix en commun pour lutter à l'époque contre le fléau d'Ebola. C'est le collectif Stop Ebola. Tiken Jafakoli, Amadou Mariam, Oumou Sangaré, Salif Keita et autres grandes voix d'Afrique. Stop Ebola sur RFI.
Ebola, Ebola. Invisible.
tu es notre ennemi. Si vous vous sentez malade, les docteurs vont vous aider. Je vous rassure, les docteurs vont vous aider. Il y a de l'espoir d'arrêter Ebola. Et confiance au docteur.
Ebola, Ebola.
Et confiance au docteur.
Ebola, Ebola.
Et confiance au docteur.
Ebola, Ebola.
Et confiance au docteur.
Ebola, Ebola.
Ebola, ce n'est pas bon. Allez voir le médecin. Ebola, ce n'est pas bon. Allez voir le médecin. Ebola fait du mal. Il faut voir le docteur. Ebola, ce n'est pas bon. Allez voir le médecin.
Ebola, Ebola.
Invisible ennemi.
Ebola, Ebola.
Invisible ennemi.
Ebola, Ebola.
Invisible ennemi.
Ebola, Ebola.
Ebola.
Invisible ennemi. Stop Ebola sur RFI, le collectif des plus grandes voix du continent autour de la question comment des chercheurs comme vous, Alpha Cabinet, Keïta et d'autres, ont relevé le défi d'Ebola, le défi posé par ce fléau, ce virus mortel. C'est du continent, c'est d'Afrique aussi qu'est arrivé un vaccin, un médicament, celui du professeur et de son équipe, hein, du professeur Muyembe en République du Congo. Ouais. C'est pas incroyable, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a les cerveaux, il y a même les moyens en Afrique, mais quand les Occidentaux ont peur, ils mettent les moyens sur le continent africain, c'est un peu ça, hein, je le dis comme je le pense.
Bon, ben, il faut dire que, comme je le dis souvent, Ebola en 2014 en Guinée existait déjà depuis 38 ans. Mais bon, c'est lorsqu'entre guillemets, j'espère que ce n'est pas cela, mais moi je pense que beaucoup de personnes pensent comme moi. C'est lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y a que ce virus a le potentiel de passer les frontières, qu'on s'est rendu compte en réalité que ouais, c'était, ça pourrait être quelque chose de dangereux, sachant que quelques années avant, on considérait déjà comme étant un virus dangereux, mais qui n'allait peut-être jamais être d'importance pour la santé publique.
Ce qui veut dire aussi aujourd'hui, on y reviendra, que finalement, ce qui manque aujourd'hui sur le continent africain en termes de santé, peut-être plus que des moyens, bien plus que des cerveaux, c'est quoi ? C'est une véritable politique One Health, c'est une véritable le fait de réaliser qu'on est tous sur la même planète et qu'il n'y a pas.
C'est ça.
C'est ça. Hein.
C'est ça. Et nous, depuis plusieurs années déjà, on est dans ce combat-là pour vulgariser l'approche, que ça sorte du concept, que ça devienne une approche, une façon d'aborder les questions de santé. Aujourd'hui, le One Health, ça doit gouverner toute notre façon de réfléchir aux problèmes de santé. On ne peut plus considérer l'homme en tant qu'une entité centrale. Il y a l'homme, il y a l'animal, il y a son environnement. On se rend compte facilement que toutes ces maladies infectieuses sont des maladies d'écosystème. C'est des maladies qui sont des maladies qu'on ne peut plus dissocier de ce qui se passe autour de l'être humain. Donc,
il faut absolument le penser en entier. Ce sont toujours des zoonoses et elles ne sont pas réservées qu'au continent africain ou à la bande intertropicale. Ça aussi dont on se rend compte. Et malheureusement, il faut qu'on se rende compte de ça pour que ça bouge.
Et non, il faut s'en rendre compte que ce sont des zoonoses pour certains, qui deviennent des maladies d'origine zoonotique parce qu'ils sont rentrés en population humaine et ils se transmettent maintenant d'homme à homme sans avoir besoin de l'intervention d'un animal. Et donc, d'où la nécessité d'étudier ces problèmes-là en profondeur, de savoir qu'est-ce qui peut être mis en place pour prévenir ces maladies-là. Et là, actuellement, entre parenthèses, on est sur un projet qui découle de l'initiative PRESOD, Preventing Zoonosis, qui est africain, dans lequel la Guinée intégré. Et moi, je suis le point focal IRD pour ce projet-là en Guinée qui va être développé avec des partenaires locaux et qui permettra justement de suivre les problèmes de santé de la population en cette fois-ci en intégrant toutes les composantes du One Health. Ça va être basé sur l'analyse de la santé de l'environnement, de la santé des animaux et de la santé humaine. Donc ça permettra de construire ou de co-construire des systèmes qui permettent de prévenir efficacement ces zoonoses.
Évidemment que vous avez, comment dire, des parrains ou des pionniers ou des modèles qui vous ont inspiré, Alpha Cabinet Keta, même si on est dans une autre époque aujourd'hui, mais je sais que vous aviez envie d'entendre la voix du professeur Ogbara Dumbo. Éminent chercheur microbiologiste disparu brutalement en 2018, cet enfant de la brousse, comme il aimait bien le rappeler, est un des seuls chercheurs africains en biomédecine internationalement reconnu, lauréat de prix scientifiques les plus prestigieux. Il a été à la fois précurseur et visionnaire. C'est vraiment la figure de la lutte contre le paludisme. Il disait, si on veut combattre le paludisme, il faut revenir dans les villages. Ce qu'il a fait en fondant avec l'entomologiste Yaya Touré au Mali. Ils étaient à deux, un peu comme vous aussi. Hein. Il y a des échos entre vous et lui, cher Alpha Cabinet Keta. Il a donc fondé, le professeur Ogbara Dumbo, le MRTC, le Centre de Recherche et de Formation sur le Paludisme, une plateforme d'excellence en réseau avec des villages sentinelles qui a essaimé depuis sur tout le continent, prouvant ainsi qu'une recherche de pointe en santé était possible en Afrique. Ogo, comme on l'appelait, hein, est celui qui a fait de la lutte contre le paludisme une question d'éthique et de solidarité internationale. Comme vous avez souhaité entendre sa voix. Alpha, je vous propose d'écouter dans ce documentaire réalisé par Bernard Surhugue, en hommage au professeur Ogbara Dumbo, un extrait dans lequel le professeur Ogo revient sur la genèse du Malaria Research and Training Center de Bamako.
Avec mon collègue, le professeur Yaya Touré, donc moi, médecin parasitologue, Yaya entomologiste, nous nous sommes retrouvés en 90 autour de M. Rank et nous avons dit qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la science et l'innovation technologique dans notre pays. Et pour le faire, très vite, nous avons eu la vision d'investir sur la nouvelle génération. Et en prêtant un serment, j'ai dit à Yaya, il faut que tous les deux nous prêtions le serment de ne pas quitter le Mali. Sans réaliser ça, parce qu'il y avait des opportunités pour des jeunes formés africains d'aller à l'OMS, à la Banque mondiale, à l'USAID, à l'UNICEF. Mais il ne fallait pas céder à cette tentation, mais il ne fallait pas aussi être seul. Donc avec le couple de parasitologues et d'entomologistes, on pouvait former une équipe pour gagner. Nous sommes des gens qui aimons le défi. Donc on voulait relever les défis que c'est possible de vivre heureux dans son pays, s'épanouir en faisant la science, de nourrir sa famille et d'attirer la nouvelle génération. Voilà un peu ce qui a guidé notre présence permanente au Mali sans émigrer ailleurs.
Vous voulez réagir, Alpha Cabinet Keta, à ces propos inspirants hein, du professeur Ogbara Dumbo, grand, grand pionnier, et en même temps vous prolongez aujourd'hui, on est dans un autre monde aussi, une autre époque que celle d'Ogbara Dumbo, j'ai envie de dire.
Bah, effectivement, je pense qu'il faut à un moment donné savoir qu'il y a des gens qui nous ont précédés et qu'on ne réinvente pas la roue, on ne fait que l'améliorer. Je n'avais jamais écouté celui-là. J'ai écouté beaucoup de choses sur Ogo, mais il dit qu'ils se sont retrouvés avec son collègue autour de Stéphane Rank. Il y a des similitudes. Nous, Sali Ousso, Abdoulaye Touré et moi, on s'est retrouvés autour de Eric Delaporte.
C'est bon, ça.
On est en capacité de le dire aujourd'hui. Je pense que c'est important de savoir qu'il y a des repères et qu'il y a des gens qui ont fait des choses avant nous. On peut s'inspirer d'eux pour essayer d'avancer.
Quel est le plus, comment dire, quelles sont les plus grosses difficultés aujourd'hui pour vous dans votre laboratoire, dans ce centre de recherche et de formation, hein, très important, la formation en infectiologie de Guinée, quand vous travaillez sur les variants des virus du Covid, mais aussi sur toutes ces zoonoses, hein, Marbourg, enfin toutes les zoonoses qui... Quel est pour vous le plus grand défi? C'est effectivement de se rapprocher, vous l'avez dit, de ce concept One Health, d'étudier ça en transdisciplinarité, mais ça veut dire sans frontières entre les disciplines, ça veut dire sans frontières entre les États, que vous puissiez aussi bouger comme il le faut pour travailler. C'est quoi aujourd'hui la plus grosse difficulté? Les moyens, le lien avec les populations, qu'est-ce que c'est?
On peut exprimer ces difficultés, on peut dire que ces difficultés sont multiformes, en quelque sorte. Bon, et nous évoluons dans un contexte où les priorités se situent ailleurs. Et nous fonctionnons au centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée parce que il y a, vous le disiez tout à l'heure, il y a des cerveaux, il y a des CV qui sont capables d'aller chercher des financements à l'international pour développer des travaux en Guinée. Et je pense, et je le dis sincèrement, que si ça n'était pas possible, ça allait être difficile de développer ces actions sur le terrain. Et donc ça, je pense que ce sont des difficultés qui progressivement peut-être vont devoir être levées. Si on doit compter sur une pérennité de ces actions-là, il ne faut pas que ce soit tout le temps les financements, les grants à l'international qui permettent de faire fonctionner. Et qu'on se dise que le jour où il n'y a pas ces grants à l'international, que le centre pourrait être capable de faire face à ses responsabilités pour atteindre ses objectifs. Donc je pense que c'est une des difficultés notables. Et aujourd'hui, il y a un manque ou, disons, une faiblesse des ressources humaines que nous essayons de pallier par le développement de formations, qui sont des formations qui peuvent être co-diplômées, par exemple, on a un diplôme interuniversitaire en santé globale et maladies émergentes qui est co-diplômé avec l'Université de Montpellier. Nous avons créé un master de microbiologie et d'immunologie à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry avec les enseignants-chercheurs des différentes facultés des sciences et des sciences et techniques de la santé. Et donc, qui permet aujourd'hui de commencer à préparer d'une certaine façon la prochaine génération, entre guillemets, de chercheurs.
On va y arriver à cette prochaine génération de chercheurs et de chercheuses. Juste avant, on fait un petit arrêt chez vous, en Guinée, avec un chanteur qui chante en anglais, en français, mais aussi en langue soso, poulard et malinké. C'est Takana Sion qui a invité Sizzla, un chanteur jamaïcain, sur ce morceau « Énergie ». Ça s'appelle. Inside of me that's burning, burning, burning. I've got the energy inside of me that's burning, burning, burning. I've got the fire inside of me that's burning, burning, burning. I've got the fire inside of me that's burning, burning, burning. What? Make the right choice and set your ship a sail. Avoid the evil things because they never will prevail. Study, preserve your culture and find back your roots. Spread the word of righteousness and care for every youth. Look around and see your people in despair. Some filled with the money, yet they find it hard to share. Everybody wanna reach it up, so they might cheat. They won't kill and burn a little thing to reach. Achieve, achieve, achieve. Achieve, achieve, achieve. I've got that energy. I've got the energy inside of me that's burning. L'énergie du Guinéen Takana Sion et du Jamaïcain Sizzla sur RFI. L'énergie, vous n'en manquez pas, cher Alpha, cabinet Keïta, directeur adjoint du Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée. Vous parliez de l'importance de la pérennité de ces instituts de recherche d'excellence sur tous les virus. La pérennité de l'énergie, de l'idée de former aussi des jeunes. Je propose d'écouter trois jeunes lauréates 2020 et 2021 du prix Jeunes Talents pour les femmes et la science de L'Oréal, de la Fondation L'Oréal et l'UNESCO, qui ont été remis pour les deux éditions, hein, Because Covid, à Kigali, c'était en novembre dernier. Reportage signé de notre correspondante Laure Broulard à Kigali, avec, dans l'ordre, Agnès-Antoinette Toumba de l'Université de Douala au Cameroun, Dominique Fatima Vumbon-Matumona du CRMF de Franceville et de la Faculté des Sciences, Marianne Gouabi de Brazzaville en République du Congo, et Esther Deguénon de l'Université des Sciences d'Abomey-Calavi au Bénin. Reportage donc pendant la soirée de remise des prix L'Oréal UNESCO Jeunes Talents pour les Femmes et la Science en Afrique, le 25 novembre dernier, 2021 donc, à Kigali au Rwanda, signé de notre reporter sur place, Laure Broulard.
Je m'appelle Toumba Agnès-Antoinette, je suis camerounaise, je suis étudiante à l'Université de Douala, en année finissante de doctorat. Et je travaille sur le paludisme, particulièrement sur l'un des vecteurs du paludisme. Et à partir des plantes, nous essayons de voir comment nous pouvons réduire le nombre de vecteurs et réduire les cas de paludisme au Cameroun et en Afrique. Et c'est quelque chose de nouveau et d'important parce que par rapport aux insecticides chimiques qui ont prouvé les résistances par rapport à ces vecteurs, ce que nous proposons avec notre recherche, c'est un insecticide bio-naturel qui sera respectueux de l'environnement et respectueux de la santé de l'homme.
Quel a été votre parcours? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, en quelques mots?
C'est avec beaucoup de passion que je suis restée au labo, parce qu'il faut avoir de la passion pour continuer la recherche en tant que femme. Sinon, vous serez happée par vos autres occupations de mère, de femme au foyer, de recherche d'emploi, etc. Donc il faut beaucoup de passion. C'est la passion qui m'a fait rester au labo et la passion de voir que j'ai trouvé quelque chose qui peut aider les populations dans l'avenir.
J'ai choisi de travailler sur le paludisme parce que le paludisme représente aujourd'hui la maladie parasitaire la plus meurtrière dans le monde. Et la plupart des cas sont rencontrés en Afrique subsaharienne. Je suis Vumbon-Matumona Dominique Fatima. Je suis assistante à l'université Marien Gwabi à Brazzaville. Et je fais mes recherches sur la résistance aux antipaludiques.
Vous venez de participer à un atelier sur comment mieux influencer les politiques publiques de votre pays. Chacune, dans votre recherche, en quoi est-ce que vous espérez influencer les politiques de vos pays?
Bon, moi je pense qu'il est très important que la recherche soit mise en avant dans nos différents pays. Particulièrement au Cameroun, les résultats de notre recherche sont plus que inespérés pour pouvoir faire avancer la lutte contre le paludisme. Et nous pensons que notre gouvernement doit vraiment mettre une politique publique en place pour voir comment est-ce qu'on peut implémenter sur le terrain les résultats que nous avons obtenus au laboratoire.
La recherche que je mène sur les antipaludiques se veut être une recherche très très proche des décisions politiques, dans la mesure où, s'il y a résistance, cela veut dire que les traitements qui sont actuellement dispensés ne sont pas très efficaces. Donc je pense que nos recherches sont très importantes et les résultats de ces recherches doivent être vulgarisés assez promptement auprès justement des décideurs politiques.
Beaucoup de jeunes filles sur le continent, c'est encore difficile de rêver d'être une scientifique?
Oui, spécialement en Afrique, c'est pas donné de vouloir être une scientifique.
Esther Deguénon, lauréate béninoise, travaille sur la résistance des bactéries aux antibiotiques.
Si tu veux faire de la science, c'est parce que tu aimes. Tu ne viens pas pour un autre but. Alors, l'essentiel, c'est de trouver un bon mentor, de trouver la bonne motivation, de garder le cap et se dire qu'on a un objectif qu'on veut atteindre.
Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous voudriez avoir accompli dans 10 ans?
Voir une Afrique où les maladies infectieuses sont réellement en train d'être maîtrisées et où des solutions locales sont trouvées à des problèmes locaux pour faire avancer les choses scientifiquement.
Voilà où se rêve Esther Deguénon, lauréate béninoise 2021 du prix Jeunes Talents de la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science en Afrique. Moi, je vous ai croisé à Kigali, c'était pas il y a 10 ans, hein, Alpha Cabinet Keta, mais j'imagine que c'était aussi à l'époque votre rêve. Vous étiez ambassadeur puis lauréat du Next Einstein Forum. Ouais. Quand on entend ces jeunes chercheuses, elles parlent de passion. Elle parle de transmettre aussi leurs recherches et de la faire passer aux dirigeants, aux gouvernants. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Est-ce que vous avez l'impression qu'on y va quand même grâce à des gens comme vous, hein, pour le dire tout simplement.
Ça fait énormément plaisir de voir que les choses évoluent dans ce sens. Et dans mon mandat d'ambassadeur du Next Einstein Forum en Guinée, j'ai organisé 2 éditions de la Semaine africaine des sciences. Et là, on n'est pas en capacité d'organiser parce qu'en toute responsabilité, on a décidé d'attendre avec le nouvel ambassadeur que la situation sanitaire le permette pour organiser. Mais au cours de ces organisations-là, on a consacré des journées aux jeunes filles pour susciter des vocations pour les sciences. Et là, l'objectif, clairement, c'était d'entendre des choses comme ça, des jeunes filles qui s'engagent pour les sciences et qui se disent, il y a le mot passion qui apparaît, solution locale pour des problèmes locaux. Il y a un engagement qui transparaît simplement en les écoutant. Au-delà de ces jeunes filles, il faut qu'il y ait d'autres jeunes qui s'engagent, que nous ayons une masse critique d'individus dans nos différents pays pour adresser les problèmes de nos pays. En les écoutant, c'est clairement un sentiment de satisfaction.
Et votre rêve à vous? Je peux en vous dire pour dans 10 ans, Alpha Cabinet Keta, parce que vous donnez vraiment de votre personne, de vos recherches. En même temps, vous êtes du coup internationalement reconnu et publié. On dit des fois que la recherche africaine n'est pas visible. Alors, c'est des chercheurs comme vous qui commencent un peu à la rendre visible. Il faudrait aussi qu'il y ait un retour, on l'a dit, hein, côté vaccin dans vos pays. Mais ce serait quoi votre rêve à vous, Alpha?
Moi, comme je le dis, j'arrêterai jamais de le dire. Mon rêve à moi serait peut-être que dans 10 ans, que je m'assois pour regarder les investissements. En gros, je considère ça, comme je le dis souvent avec mes amis, je dis, nous sommes des entrepreneurs de la recherche. Nous investissons sur le terrain.
Et le long terme.
En développant des choses. Et lorsqu'on développe ces choses-là, le retour que nous pouvons attendre, ce n'est pas que nous allons avoir des comptes bancaires remplis d'argent, non. Mais ce retour, ça serait de voir que ce que nous avons commencé peut être continué par d'autres personnes. Et que ça puisse aller au-delà de ce que nous avons mis en place et que ça permette justement de continuer à développer des actions pour trouver des solutions locales aux problèmes locaux.
Merci, c'est le meilleur qu'on puisse se souhaiter à nous tous sur cette terre. Merci beaucoup, Alpha Cabinet Keta, d'être venu en direct depuis Montpellier, où vous allez retourner mener vos recherches avant de repartir à Conakry, hein, c'est ça. Écoutez, vous revenez quand vous voulez, quand vous êtes de passage à Paris, ou sinon, on peut bien vous prendre en liaison depuis Conakry pour partager avec vous vos découvertes, et puis venez la prochaine fois avec des étudiants et étudiantes que vous avez formés. Vous rendez compte, ce serait
ça
déjà à votre âge d'être déjà mentor et modèle, rôle modèle.
Ça sera avec plaisir.
Merci infiniment à la cabinet d'État.
Merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur RFI Pure Radio, l'application. Au plaisir de vous retrouver demain pour de nouvelles aventures scientifiques et humaines sur les traces de la panthère des neiges à l'affût avec le photographe animalier Vincent Munier et l'écrivain voyageur Sylvain Tesson. Alors ils sont armés de passion et de patience dans la neige face aux yaks, aux ours, en espérant de voir la panthère des neiges. Le film La panthère des neiges, réalisé par Marie Amiguet, sortira mercredi sur les écrans et sera demain autour de la question « Comment pister la panthère des neiges ?» sur RFI, avec Alice Ménard et Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fuyette en coulisses. Merci pour votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles à l'écoute de RFI.